question. La forme n'est-elle pas la qualité vue du côté de l'être? La détermination, la forme, en tant qu'elle détermine ma connaissance. Donc la qualité en tant que saisie sensiblement ou intellectuellement. La qualité n'est-elle pas comme la manifestation en acte de l'être? Oui. C'est très vrai, c'est bien d'être venu là-dessus, parce que c'est pas commode à bien préciser. La qualité, comme nous allons essayer de le voir progressivement, elle est indivisible. Elle est simple. Et par le fait même, elle est difficile à préciser. Alors, premier effort d'Aristote, très proche du langage, constatation et prédicament. On peut reprendre ça, toute l'analyse d'Aristote là-dessus. Je crois pas qu'elle est à beaucoup modifiée. Mais ce n'est pas le regard métaphysique. C'est un regard descriptif. Et c'est très facile pour la qualité de rester sur ce regard descriptif. On comprend très bien. Mais c'est d'autre part très important parce que c'est sûrement ce problème de la qualité qui nous permet de lier la métaphysique à toute une recherche moderne de la phénoménologie, l'apparence, ce qui se manifeste, le vécu. Et c'est intéressant de voir que la relation, comme la qualité, mettent notre regard métaphysique en liaison avec la pensée moderne. On ne peut pas se passer de métaphysique. Mais on va plus ou moins loin. On va jusqu'à l'être. Et pour aller jusqu'à l'être, il faut aller jusqu'à la substance. Si on ne va pas jusqu'à la substance, on reste ou sur la relation, ou sur la qualité, ou sur la quantité. On pourrait peut-être aussi dire sur l'action et la passion. On ne le fera pas. Mais peut-être. Et je crois que déjà, avec ces trois relations, qualité, quantité, relation, qualité, quantité, on touche pratiquement tous les efforts métaphysique de l'intelligence. L'intelligence en quête de l'être. Elle est toujours en quête de l'être. Même si elle ne le trouve pas, et même si elle ne le dit pas, elle est en quête de l'être. Primum caditi intellitus ens. Quand Saint Thomas dit ça, au plan critique, bien je crois que de fait, il énonce quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, si on le découvre, on peut l'énoncer. Si on ne le découvre pas, on est in via. Et l'être est saisi dans la relation, l'être est saisi dans la qualité, l'être est saisi dans la quantité. Alors, c'est ça qui est intéressant à saisir pour nous. Nous avons essayé de saisir en premier lieu la substance, puisque dès qu'on saisit la substance, on peut saisir la relation. Ce que nous avons essayé de faire, les deux aspects extrêmes de l'être, l'intase et l'extase, l'aspect fondamental de l'immanence de l'être, la substance, la source cachée, et puis la relation tournée vers l'être qui éclate, l'aspect extatique de l'être tourné vers. Tout entier relatif. Les deux aspects. La qualité, c'est tout à fait autre chose. C'est ça qu'il faut essayer de saisir au plan métaphysique. Il faut essayer de saisir qu'est-ce qui caractérise dans l'ordre de l'être la qualité. Et comment se fait-il que je crois le néoplatonisme ne dépasse pas la qualité. En disant ça, on est un petit peu féroce sur le néoplatonisme, je crois. Et ne dépassant pas la qualité, on va faire que beaucoup de philosophies ensuite resteront sur la relation. Alors, ce serait intéressant à voir, point de vue histoire de la pensée. Vous voyez, c'est un peu, vous voyez, une piste que je vous donne, mais pas plus. Il y a une montée vers la découverte de l'être. Et la première chose, c'est distinguer le devenir et l'être. C'est évident que c'est le premier effort de la philosophie grecque. Puis de découvrir l'ousia, donc la substance. Platon, Aristote. Ensuite, est-ce que on monte plus haut? Je ne crois pas. Il y a plutôt une attitude du néoplatonisme qui ne dépasse pas l'ousia, qui ne dépasse pas le point de vue, puisque l'ousia est l'être en acte. Les deux aspects de la métaphysique, les deux aspects de ce qui est. Il me semble qu'après, avec le néoplatonisme, on va rester dans la qualité. Et on va voir pourquoi. Et une métaphysique qui demeure sur la qualité, le néoplatonisme, qui de fait est ce qui, de la philosophie grecque, reste le plus dans la philosophie européenne actuelle. C'est pas l'aristotélisme. L'aristotélisme, il reste par moment, mais au fond on peut pas dire que c'est lui qui domine. Vous voyez, quand Heidegger dit que toute la philosophie occidentale est une comme une sorte de d'interprétation du platonisme et du néoplatonisme, il a parfaitement raison. La pensée commune habituelle aujourd'hui, c'est Platon et le néoplatonisme. Si vous voulez avoir du succès, faites-vous platonicien ou néoplatonicien. Là, vous aurez le succès. Toutes les portes sont ouvertes. Si vous cherchez la vérité, vous allez jusqu'à Aristote, mais acceptez d'être en dehors de ce que les gens aiment. Et la parole du bon père Ramirez, si vous entrez dans la métaphysique, vous serez haï. La métaphysique d'Aristote, on ne supporte pas. On ne supporte pas la vérité. Tandis que la qualité, ça va très bien. C'est très intéressant à voir comme point de vue attitude psychologique sur le point de vue humain. On a beaucoup, beaucoup de peine d'accepter la métaphysique. Pourquoi? Parce que c'est par là que on découvre le mystère de l'être premier et la création. Et qu'on peut montrer que l'homme n'est parfaitement homme que s'il adore Dieu. Ça, c'est insupportable. Parce que c'est rappeler la petitesse de l'homme. Oui. Vous comprenez bien que la métaphysique, que on ne peut justifier la petitesse évangélique que par l'adoration. C'est sûr. S'il n'y a pas l'adoration, on ne peut plus justifier la petitesse. Alors, ça a des répercussions sur notre foi. C'est impossible autrement. pas possible autrement. Parce que avec le néoplatonisme, on entre dans l'ontologisme. Un primat de l'évanance. Tandis que, avec l'être en acte, la fin, un primat de la transcendance. Or, seul le primat de la transcendance, juste, permet de comprendre l'adoration. C'est l'adoration proclame la transcendance de Dieu, pas du tout l'immanence. Oui, l'immanence est impliquée dedans, c'est évident, j'adore Dieu qui est présent, mais parce qu'il est transcendant, et non pas premièrement dans son immanence. C'est la qualité qui fait maintenir ce point de vue de l'immanence. Et alors, il me semble bien, c'est là où je serai intéressant à voir comment une philosophie qui se veut absolue de la qualité conduit à la relation ou à la quantité. Oui. Par là, on aurait le schéma intelligible de l'histoire de la philosophie occidentale. Si on quitte Aristote, on retombe dans le néoplatonisme. C'est la seule grande philosophie à côté d'Aristote. Le néoplatonisme et Platon. On ne dépasse plus la qualité, et ne dépassant plus la qualité, au fond, on aboutit où ? Au primat absolu de la relation. Ou au fondement de la qualité, qui est la quantité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors c'est intéressant de le comprendre. Hein. Et je crois bien qu'on peut le justifier assez facilement. Hein. Puisque nous avons vu la relation, comment tout l'hégélianisme, c'est la relation. Parce qu'au fond, la qualité n'est plus vue que dialectiquement. En réalité, la qualité n'est plus vue du tout dans sa détermination absolue, mais elle est vue dans sa limitation. Le glissement de la qualité vers la relation, c'est de ne plus voir la qualité en elle-même, donc problème de la détermination. Et c'est de voir la limite. Si je vois la qualité comme la limite, je suis conduit à la relation. Ou au fondement. Et c'est la place, je crois, de la philosophie hégélienne, ça. J'allais presque dire, de neutraliser la qualité. En faisant de la qualité uniquement un moment dialectique. Si la qualité est vue comme un moment dialectique, elle n'est plus vue dans son indivisibilité. Le dernier reste de l'indivisible, c'est la qualité. La qualité. L'indivisible est premièrement au niveau de l'ousia et de l'être en acte. Là, vous avez des principes. Et vous avez une fin. Vous avez quelque chose de radical, d'absolu, d'invisible. Si vous supprimez ça, la qualité va rester encore quelque chose de premier. Un premier dans l'ordre de la détermination. C'est déjà quelque chose. C'est la grandeur du néoplatonisme. Le néoplatonisme a de la dignité, a de la grandeur. Mais rester à ce niveau de la qualité en identifiant l'être et la qualité, on est conduit à l'hégélianisme, à la dialectique, au primat de la relation. Et on est conduit au primat de la matière. Mais de Hegel naît le marxisme, la dialectique matérialiste. Après ça, on a des succès d'années. C'est très vrai. On peut plus dire qu'il y a encore quelque chose qui se tient debout. Le dernier qui se tient debout, c'est Hegel. C'est presque le terme de la philosophie, Hegel. Et Marx. On touche des moments ultimes. Après ça, ça va dans tous les sens. C'est la logique mathématique. Je veux bien que la logique mathématique ait dit d'être logique, mais vous voyez, c'est ce que le père Borinsky disait dans un livre il y a déjà 20 ans. Dans 10 ans, il n'y aura plus que la logique mathématique comme philosophie. Et la logique mathématique, c'est le dernier restant de la relation. L'être universel. Hegel est beaucoup plus que ça. Il y a encore une pensée. Tandis que quand vous avez vraiment, et que vous ramenez toute la philosophie à la logique mathématique, c'est pauvre. Je me souviens, c'était avec le Saint-Père, on parlait de tel ou tel professeur, pas du père Borinsky, mais qui ramenait tout à la logique mathématique. Le Saint-Père a dit, tout simplement, avec un petit, oui, c'est pauvre, point de vue philosophique, plus grand chose. Et c'est vrai. C'est périphérique. C'est comme si quelqu'un disait qu'il connaissait Paris parce qu'il a fait 5 fois le tour de Paris. À toute vitesse. C'est ça, c'est périphérique. C'est enveloppant. La logique enveloppe. Est un garde-fou. Un garde-fou enveloppe toujours. On enveloppe le fou. N'est-ce pas? Pour l'empêcher d'aller. C'est encore une détermination, c'est vrai. C'est une détermination purement d'extérieur. Il n'y a plus que la limite. Il n'y a même plus la limite vue dialectiquement qui engendre la mesure. C'est encore quelque chose. Tandis que là, plus rien. Alors, revenons à l'aspect métaphysique d'une qualité qu'on regarde comme quelque chose de l'être, une modalité de l'être, dans l'ordre de l'être pris analogiquement, quelle est la place de la qualité? C'est ça qui m'intéresse quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois tout de suite qu'avec la qualité, je suis dans la diversité. Tout de suite. Ça, je crois que les catégories d'Aristote le montrent bien. Tout de suite, je suis dans la diversité. Alors, attention, je me place ici. Je me place du côté aristotélicien. Et j'essaie de comprendre ici la place de la qualité. La qualité est seconde. Elle est seconde, la qualité. Et là, la relation est troisième. Et la quantité est quatrième. Quatrième place. Ce qu'on va voir au terme, tout de suite, vous comprenez. On a vu la relation avant pour des tas de raisons. Et en réalité, la qualité passe avant la relation. Point de vue de l'être. La qualité a plus d'être que la relation. J'espère que ça vous le comprenez. On a encore un os à ronger dans la qualité. Et avec de la moelle. Il y a quelque chose, la qualité. C'est pas rien. Dans la relation, c'est très très délicat. La relation, c'est toujours, toujours à vous appuyer sur l'autre. Ça a besoin de la canne. Ça suffit plus ce que vous regardez. Tandis que la qualité, on peut la regarder. Et elle joue un rôle extrêmement important. C'est pour ça que je dis, c'est la grandeur du néoplatonisme. Il ne faut pas du tout le diminuer. Mais le néoplatonisme donne naissance à la dialectique. S'il n'y avait pas eu le néoplatonisme, il n'y aurait pas eu de dialectique. Mais c'est curieux parce que Hegel montre que Platon ne forme pas. Seul Aristote forme, et pourtant, il est dans la dialectique. Une espèce de contradiction, là. Interne. Mais comme toute la philosophie consiste à dépasser la contradiction, je comprends très bien que lui-même est dans la contradiction pour se dépasser. Alors, la qualité vue par rapport à l'ousia, parce qu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce qu'elle est en elle-même, au point de vue de l'être. Alors, je suis d'accord que c'est par la détermination que je saisis la qualité. Et la détermination implique la forme. La forme, ce n'est pas l'être. La forme, ce n'est pas l'être. Mais c'est quand même une primauté de l'être. Première distinction que je fais en regardant ce qui devient, c'est matière et forme. Dans l'ordre du devenir, l'être, c'est la forme. Dans l'ordre du devenir, l'être, c'est la forme. Dans l'ordre, si je reste uniquement dans le devenir, je ne peux pas distinguer l'être de la forme. Et je saisis toujours l'être du devenir comme la forme. C'est ce qui est très intéressant à voir dans la connaissance que j'ai de l'œuvre artistique. C'est la forme. Dans le devenir, c'est la nature-forme. C'est là où je saisis sa détermination, ce qu'elle est. Donc, voyez, je crois qu'on peut dire qu'en effet, la qualité du côté de l'être est forme. On verra ça, s'il faut ajouter quelque chose. Mais c'est très vrai que la qualité ne dépasse pas la forme. Oui. Elle atteint l'être par la forme. Et d'une certaine manière, elle est forme. La forme dans ce qu'elle a de plus elle-même, la forme dans ce qu'elle a de plus elle-même, prise en elle-même, est qualité. Ça explique comment les artistes aiment tellement l'aspect qualitatif. Dans pleine lumière, la victoire de la forme. La victoire de la forme, c'est la qualité. On peut dire ça. C'est la victoire de la forme. La forme victorieuse de la matière, c'est la qualité. C'est pour ça que la forme victorieuse de la matière, ce sera la beauté. Est-ce que la beauté, est-ce que c'est pas la qualité? On verra. Tout ça se tient. Alors, la forme a comme fruit la détermination. Le propre de la forme, c'est déterminé. Alors, je dirais que le propre de la forme, c'est déterminé. Elle détermine l'intelligence et elle détermine la matière aussi. Ontologiquement. La forme détermine la matière. Elle informe la matière. Et c'est le rôle de la forme. Oui. La forme, comme forme, détermine la matière. Informe la matière. La substance, comme substance, n'informe pas. C'est la substance en tant que forme. C'est-à-dire en tant que nature. Donc en tant que forme. La substance en tant que substance subsiste. Vous voyez la différence? Elle se suffit elle-même, la substance. La qualité ne se suffit pas elle-même. Et donc, elle sera détermination ou de l'intelligence ou de la matière. Et vous voyez déjà, alors c'est ça qui est intéressant, vous voyez déjà dans la forme, une dualité. Oui. C'est peut-être ce qu'il y a de juste dans la pensée hegelienne. C'est de voir qu'en effet, la qualité implique une dualité. Si elle implique une dualité, on peut donc la dialectiser. Je peux dialectiser que ce qui implique une dualité. Ce qui est absolument simple, je ne peux pas dialectiser. C'est pas que je ne peux pas dialectiser la substance. Je ne peux pas dialectiser l'être en acte. La dialectique, c'est c'est d'arriver à saisir dans une réalité sa dualité. Prenez une image, hein. Vous savez, chez le menuisier, quand il voit une fente et qu'il enfonce un coin, alors il enfonce, il sépare, il divise. L'âme de la dialectique, c'est la division. Et la dialectique existe devant quelque chose qui est divisible. C'est ça que j'appelle être capable d'être dialectisé. Si on n'est pas capable d'être dialectisé, il n'y a pas de dialectique qui va naître. Or, la forme implique ce double regard. La forme est source d'intelligibilité. Elle détermine l'intelligence. Et la forme est capable d'informer la matière. Alors, c'est ça qui serait intéressant par rapport à la pensée hegelienne. C'est de voir comment la forme va déterminer. La forme détermine. Elle détermine l'intelligence. Elle détermine la matière. Il y a dans ce rôle de la forme une dualité. Un œil vers l'intelligence, un œil vers la matière. Et vous voyez que par rapport à l'intelligence, elle détermine l'intelligence, elle l'actue. Elle actue mon intelligence. Et elle actue la matière. Donc, des deux côtés. Mais elle actue l'intelligence en étant, pour moi, pour nous, elle actue l'intelligence en étant transformée, c'est-à-dire l'intentionnalité. Tandis qu'elle actue la matière en tombant dans le devenir. La forme s'idéalise et la forme se matérialise. Grâce à l'intelligence, elle s'idéalise et, déterminant la matière, elle se matérialise. Oui, comme c'est curieux. Alors, je crois que ça nous aide à comprendre comment il y a toujours quelque chose de vrai, hein. Dans la dialectique hegelienne, il y a quelque chose de vrai. Et c'est intéressant à le trouver. Parce que, je vais toujours dire, le philosophe aime les monstres. Parce que quand il n'y a qu'un œil, hein, et pas deux, c'est intéressant. Il aime les monstres. Et il ne les réalise pas, il les constate. Et il s'en sert. Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprendrait pas autrement. Je crois que la dialectique hegelienne nous fait comprendre quelque chose de la forme et de la qualité qu'on ne comprendrait pas autrement. Parce qu'elle manifeste ça de façon étonnante. Elle nous fait comprendre ce que c'est que la relation. Mais c'est la petite paillette d'or dans l'hegelianisme. Qualité-relation. Et le lien entre qualité-relation, vous avez tout l'hegelianisme. Parce que c'est vous, en dialectisant, vous relativisez. Et vous enfoncez dans ce qui est divisible, le coin. Et vous arrivez les deux aspects. Bon, alors, détermination des deux côtés. La qualité n'est-elle pas comme la manifestation en acte de l'être? Alors ça, on verra. Troisième point, manifestation. Et c'est très vrai, il y a les trois aspects. Hein. Forme, alors j'allais dire, la forme, c'est le fondement radical de la qualité. La détermination, c'est, j'allais presque dire, ce que la qualité apporte Oui, c'est intéressant parce que la qualité se dilue dans la relation, elle se dilue dans la matière. Dès qu'elle est dialectisée, elle se perd. Et elle se perd de deux manières. En l'idéalisant, on l'idéalise. Ou on la matérialise. Des deux côtés. Alors, essayons notre effort métaphysique sur la qualité de creuser encore un peu plus. Je vous ai montré que dès qu'on voit la diversité des qualités, on se pose la question tout de suite, qu'est-ce que c'est que la qualité présente dans cette diversité? Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre tout de suite que la qualité appelle la connaissance analogique. Si je regarde la qualité dans sa réalité existentielle, donc relative à la substance. Je suis en présence d'une connaissance analogique. La diversité et l'unité. Et ça, c'est propre de la qualité. Si je ne regarde plus la qualité dans son regard vers la substance, mais que je la regarde d'une manière dialectique, c'est-à-dire avec le désir de la dominer, alors à ce moment-là, je vois comment la qualité me conduit à la mesure. Position hegelienne. Voyez pourquoi. En idéalisant la détermination, en idéalisant la matière, je suis en face de la mesure. Qu'est-ce qui mesure? C'est l'idée. Point de vue artistique. Quand vous avez une idée, vous mesurez votre activité. Toute votre activité mesurée, elle est déterminée. Alors, on voit le passage de la détermination par le point de vue l'idéalisation de la mesure, dans l'intelligence, prima de l'intelligence. Alors, à ce moment-là, la qualité est parfaitement regardée en elle-même du côté de son intelligibilité. Mais elle n'est plus du tout regardée par rapport à la matière. Alors, on comprend, vous voyez, l'expression de Engels. Hegel marche sur la tête. Renversons la dialectique hegelienne et marchons sur les pieds de la matière. Oui. Je renverse la dialectique hegelienne pour trouver, au contraire, le support matériel. Et la matière va idéaliser la matière. Je veux dire, et la qualité va idéaliser la matière. Ça qui est curieux. La qualité peut idéaliser l'intelligence et la qualité peut idéaliser la matière. Puisque elle a la double aspect. Et de fait, c'est ce qu'on voit. Dialectique hegelienne, Marx. Et ceci, c'est la qualité qui fait ça. C'est parce qu'on a identifié l'être et la qualité. En identifiant l'être et la qualité, j'aboutis à ces deux positions. Essayez de comprendre ça, et ceci par le néoplatonisme, qui a mis la qualité, qui a identifié la qualité et la matière. Alors, le néoplatonisme a maintenu l'ousia, a maintenu la substance, mais en réalité, je ne sais, il n'y a plus d'induction. S'il n'y a plus d'induction, je ne saisis jamais la substance. Et je reste devant la forme, et je reste devant la détermination. Et c'est ça qui prime. De sorte que je crois qu'on peut vraiment dire que si je saisis la qualité par rapport à la substance, je suis bien en face de la forme, la détermination et la manifestation. Alors nous allons voir le point de vue de la manifestation. Puis-je préciser la qualité en disant que le rôle propre de la qualité, c'est de manifester. Ceux qui ont regardé dans saint Thomas la lumière ont vu que toujours le propre de la lumière, c'est de manifester. Et que saint Thomas aime de montrer comment la connaissance liée à la lumière manifeste. Il y a un lien entre les deux. Alors, il faut essayer de saisir comment le propre de la qualité, c'est de manifester. La manifestation fait appel à l'intelligence. C'est quand je connais quelque chose que je peux manifester. Manifester cette chose telle qu'elle est. La manifestation, c'est une victoire. Alors est-ce que c'est la victoire de la forme? Ou je montre cette forme dans tout ce qu'elle est elle-même. Je l'exalte pour elle-même en la montrant telle qu'elle est. La qualité n'a-t-elle pas justement ce rôle propre de pouvoir manifester la forme pour montrer que la forme a quelque chose d'irréductible à la substance? Elle est bien relative à la substance dans son existence, mais elle est irréductible à la substance. Elle a quelque chose qui lui est propre. Ce n'est pas du tout la substance qui manifeste. Elle est cachée, la substance. Tandis que la qualité manifeste par elle-même. Vous voyez, ce double aspect que nous pouvons, à la place de dialectiser la qualité en l'idéalisant, je dis la qualité manifeste. Alors, ce serait la différence à bien comprendre entre la manifestation et l'idéalisation. Si je regarde la qualité dans une perspective réaliste, la forme, la détermination est relative à l'ousia, donc à la substance, du côté existence. La forme n'existe que par rapport à la substance, pas que par rapport à la substance, que relative à l'ousia. Mais la forme est autre chose que la substance. Si la forme est autre chose que la substance, il s'agit de la saisir en elle-même. Et c'est son rôle de se manifester comme forme. Alors, ça c'est vraiment la qualité. J'allais dire, la qualité, c'est la forme qui se manifeste. C'est la forme dans toute sa splendeur. C'est la forme qui s'épanouit. Je saisis donc là les deux aspects de la qualité au point de vue de métaphysique, au point de vue de son être en acte. Elle est relative à la substance. Elle n'existe que par rapport à la substance. Elle n'existe pas par elle-même. La qualité ne subsiste pas. Mais si je la regarde dans ce qui est son originalité propre, elle n'est pas la substance. Elle qualifie la substance tout en provenant de la substance. Quelle est son originalité propre? C'est de manifester la forme. C'est de montrer que la forme, comme forme, ne subsiste pas, mais se manifeste. première dans l'être. La qualité est seconde dans l'être. Alors, elle ne subsiste pas, elle est relative. Mais, elle a quelque chose de propre, quelque chose d'original. Elle se manifeste. C'est le pan qui fait la roue. Le pan n'est pan que quand il fait la roue. Tant qu'il n'a pas fait la roue, vous n'avez pas vu le pan. C'est exactement ça, la qualité. C'est la forme qui se manifeste. Mais comme c'est curieux, comment la qualité nous dévoile, pour prendre un langage moderne, la qualité dévoile la forme en la manifestant. La forme se manifeste dans la qualité. Et c'est pour ça qu'en se manifestant dans la qualité, on saisit la forme dans toute sa splendeur, dans sa victoire. La qualité, c'est la victoire de la forme. C'est la forme qui fait la roue. Elle est elle-même. J'ai pas besoin de chercher autre chose. Et voyez, le rôle de l'artiste, ce sera de manifester, de montrer la manifestation de la qualité. L'art est toujours pour montrer la victoire propre de la forme. Manifester. Et la métaphysique montre le fondement réel de l'art dans la qualité. Alors, vous voyez là la déviation. Si je dialectise la forme, je suis en face d'une déviation. Puisque la qualité n'est pas faite premièrement pour être idéalisée. Elle est idéalisée par la dialectique. Et elle devient la mesure. La qualité n'est pas faite premièrement pour informer la matière et permettre à la matière d'être dialectique par le devenir. La qualité, au point de vue de son être, est faite premièrement pour se manifester. Elle est. Mais elle n'existe. Elle est en acte. La substance. Et on pourrait presque dire, vous voyez, que dialectiser la qualité, c'est l'empêcher d'être relative à la substance pour lui permettre d'être parfaitement d'elle-même en l'idéalisant. Mais parfaitement d'elle-même, elle n'est plus elle-même. Elle quitte le réalisme. Pour rester réaliste, la qualité doit accepter d'être seconde. Donc, de s'humilier. D'être relative à la substance. Il y a une tentation permanente de la qualité. Une tentation permanente de vouloir se manifester elle-même indépendamment de l'être. Alors là, c'est l'idéalisation. Ce qu'il faut expliquer, pourquoi l'idéalisme? Comment ça se fait? Il faut expliquer pourquoi la dialectique? Et je crois que c'est la qualité qui fait comprendre ça. Parce qu'alors à ce moment-là, ce qui est second devient